Radio Turbo.
Les pros au micro.
Radio Turbo.
Cette émission a été réalisée par l'association Média Commun Occitanie en partenariat avec la Ligue de l'enseignement Haute-Garonne. Auprès d'élèves du lycée professionnel Eugène Montel à Colomiers, elle a été réalisée au cours d'un atelier mené sur 2 mois, de mars à avril 2018. Partons ensemble à la découverte des métiers avec Radio Turbo, les pros au micro.
Salut à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices.
C'est Radio Turbo, les pros au micro. Nous sommes des élèves du lycée Eugène Montel.
Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une émission spéciale à la rencontre de professionnels tels que Frédéric de Soit ou Cédric, responsable de la CGT, Haute-Garonne.
Mais tout de suite, partons à la découverte de notre lycée.
Là, nous sommes sous une espèce de préau, proximité des salles, à la cantine.
Ouais, là, t'as des salles de cours, l'atelier, c'est de l'autre côté.
Tu nous emmènes où, là?
Ah ben, on va aller vers l'interne. Hein.
Allez. Et vous, votre emploi du temps, il se répartit comment?
Nous, on a 10 heures d'atelier par semaine. De cours.
Donc quand même plus de cours théoriques que d'ateliers. Mmh. Et vous, juste personnellement, vous préférez quoi? Être en atelier ou en cours?
Atelier, ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je suis prof de construction mécanique, ici dans l'établissement. C'est tout ce qui est dessin industriel, calcul de méca.
D'accord.
Voilà.
Vous l'avez pas comme professeur, alors?
Non, moi je dois avoir un petit collègue.
Alors, vous êtes en quelle classe? Monsieur Babi. Voilà. Ouais. Il vous enseigne à lire des plans.
Ouais.
Voilà, pour préparer l'intervention à l'atelier, c'est ça?
Voilà.
Et bien voilà. Donc vous êtes en Mélec, seconde de Mélec.
Ouais.
Très bien.
Depuis combien de temps vous enseignez ici?
Ici, ça fera 17 ans maintenant. Je suis arrivé à l'an 2000. Et que j'enseigne, ça fait presque 25 ans maintenant.
Et ça vous plaît toujours?
Oui. Malgré quelques difficultés rencontrées, avec des élèves qui veulent plus ou moins travailler, plus ou moins s'investir, mais sinon c'est bien.
Merci beaucoup, monsieur.
Bonne poursuite.
Là, il y a une salle de conférence. On n'y va pas souvent, mais on est allé 2 fois dans l'année. Et en haut, il y a les salles de cours. Donc, en haut, il y a l'internat.
Ouais, c'est l'étage suivant.
Ouais, et donc là, la première, c'est une salle d'art appliqué. Et tout le long, c'est des salles de construction. Là-bas aussi. Là aussi.
Ah non, de 0 à 200, c'est les salles de maths, tout ce qui est salles de maths et physique chimie. De 200 à 300, c'est les salles d'histoire géo et d'anglais. De 300 à 400, c'est tout ce qui est art plastique et construction. Et après, de 400 à 500, c'est tout ce qui est atelier et salles techno et tout ce qui concerne notre métier.
Il y a combien d'élèves?
On en est à un bon 550, dont 8 filles.
16 filles.
C'est vrai,
16 filles.
Non, 8 parce 16, qu'il y en a qui sont pas là.
Ah oui, il y en a qui sont pas là, ils sont pas là.
Ça fait combien d'années que vous êtes au lycée?
Un an.
Toi, deux ans?
Ouais, deux ans, moi j'ai redoublé.
Là, nous nous dirigeons vers des ateliers de maintenance et de chaudronnerie.
Il y a combien d'élèves par atelier?
À peu près une quarantaine. Une quarantaine.
En fait, il y a plusieurs groupes d'ateliers. Dans une salle d'atelier, genre, il y a 2 groupes. Avec un prof dirige un groupe.
Moi, j'ai du mal à imaginer qu'est-ce que vous pouvez faire en atelier.
En gros, en ce moment, on donne des exercices sur une plaque où on doit placer des prises électriques et faire des exercices de montage dessus.
Maintenant, on écoute Cédric de la CGT.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter, raconter un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites auprès de la CGT?
Cédric Cobert, je suis le secrétaire général de la CGT 31. c'est-à-dire l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Garonne.
Nous aimerions savoir, alors, qu'est-ce que la CGT et à quoi cela sert ?
CGT, ça veut dire Confédération Générale du Travail. C'est une organisation syndicale, c'est la plus vieille, elle est née en 1895, et elle n'est pas née de rien, elle est née des traditions de lutte des salariés, donc c'est un syndicat.
Alors, on voudrait savoir, alors, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à rentrer dans la CGT ? Pourquoi avez-vous voulu venir ici ?
Eh bien, nous ne sommes pas des syndicalistes professionnels, nous sommes des salariés. Moi-même, je suis salarié d'un organisme de protection sociale. Et donc, en tant que salarié, dans le monde du travail, on est confronté à un affrontement entre le capital et le travail, un affrontement de classe. Et la prise de la conscience de cet affrontement m'a amené, moi, à éprouver la nécessité de m'organiser avec mes collègues.
D'accord, très bien. Alors, on aimerait savoir...
Un syndicat, à quoi ça sert ?
Voilà.
Alors, la CGT, c'est un syndicat. Hein, et un syndicat, c'est une organisation de salariés. Une organisation de travailleurs salariés qui ont choisi de s'organiser pour défendre leurs intérêts et défendre donc leurs intérêts immédiats, mais aussi défendre une certaine vision du monde, puisque l'un et l'autre sont liés. On dit traditionnellement qu'à la fois on défend les intérêts immédiats au poste de travail, ça peut être le chauffage, la sécurité, mais on défend aussi, on se bat pour la transformation de la société, c'est-à-dire une société plus émancipatrice, une société dans laquelle les valeurs de solidarité, de bien-être sont mises en avant, et d'égalité aussi.
Et justement, en parlant... ce qui est égalité, donc bien évidemment, les gens travaillent pour effectivement avoir un salaire. Nous en sommes venus à en parler du SMIC. Nous nous sommes rendus compte qu'énormément de personnes ne savent pas, même pas ce que voulait dire la vraie définition SMIC. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être qu'est-ce qu'un SMIC ?
Alors, les salariés travaillent pour avoir un salaire, oui, mais d'abord et avant tout, ils travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et la différence entre les capitalistes et nous, c'est que le capitaliste, lui, il a le choix d'embaucher qui il veut, alors que les salariés qui vivent de leur travail, qui vivent du travail de leurs bras, de leur tête, eux, ils sont obligés de se faire embaucher et aux conditions qui leur sont dictées par les employeurs. Donc, il y a une tradition de lutte pour avoir une rémunération en échange du travail, que cette rémunération, elle permette de vivre et d'assouvir des besoins sociaux. Alors, on peut considérer que de la part d'un employeur, ce qui est suffisant en termes de salaire, ce n'est pas les mêmes besoins qui sont exprimés par les salariés. C'est-à-dire que le prix du travail... Le travail crée de la richesse. Savoir combien est-ce qu'on doit rémunérer ce travail, ça fait l'objet d'une bataille, puisque à la fois ceux qui possèdent l'outil de travail ne veulent pas lâcher l'argent créé, et ceux qui créent la richesse par leur travail, les salariés, donc, eux ont intérêt aussi à se battre pour récupérer cette richesse-là. Donc les luttes au cours du temps ont donné... naissance au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui donc ce salaire minimum, c'est censé être un minimum pour tous les salariés pour pouvoir vivre de son travail, mais surtout c'est une base légale à partir desquelles sont calculées les échelles de salariales, ensuite dans les conventions collectives ou dans les statuts de la fonction publique, puisque le SMIC aujourd'hui ne permet pas tellement de vivre, malheureusement, aux alentours de 1200 euros
effectivement.
Par mois.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, vous trouvez ça correct, oui. Vous qui allez rentrer dans le monde du travail, là, demain, là.
Non, je trouve pas ça très correct, en fait. dans le sens où, certes, on comprend que les grands patrons d'entreprise... Et à partir du moment où on gagne beaucoup d'argent, effectivement, on est toujours attaché à le garder. C'est clair et net.
Mais la part du gain.
Oui, voilà, la part du gain. Et c'est vrai que c'est toujours énervant. Mais enfin, je suis obligé de me mettre du côté des salariés parce que certes, même ces patrons des fois, ils s'acharnent un peu. Ou alors ils sont à l'écoute des salariés.
Ça arrive aussi très souvent que les patrons, ils s'en fichent totalement. Ils sont, voilà, ils sont juste là pour les faire travailler. Donc du coup, je suis obligé d'un petit peu mettre du coup les salariés dans le sens où il y en a, ils s'acharnent vraiment au travail, ils font des heures supplémentaires. Pour au final, juste, on leur donne un SMIC et la seule réponse qu'on leur donne, c'est, enfin, c'est on peut pas vous donner plus parce qu'en fait, il y a tellement là pas du gain. C'est tellement, il y a tellement ce truc aujourd'hui de d'avoir le plus d'argent possible que on fait du mal aux autres, en fait, sans se rendre compte.
Alors là, quand on parle des patrons, moi, je ne parle pas du boulanger du coin ou du petit artisan,
oui, mais moi aussi, je parle
qui, eux, bien souvent, n'ont pas de conditions bien meilleures que les salariés. Par contre, quand on regarde les entreprises du CAC 40, dont les actionnaires ont eu 24% d'augmentation sur des sommes énormes, c'est 44 milliards, etc. Mmh. Quand on voit les grands patrons, les ténors du capitalisme, que ce soit la famille Bettencourt, cette pauvre Liliane, j'allais dire, c'est du second degré, mais qui est morte milliardaire sans jamais avoir travaillé de sa vie. On ne parle pas en termes de subsistance. En une vie, elle a pas, même si elle avait vécu 1000 vies, elle n'aurait pas dépensé tout ce que lui a fait gagner L'Oréal. Elle est née avec ça dans le berceau et c'est tout. Et sa fille aujourd'hui continue. Il en va pareil pour les Lagardère, les Bernard Arnault, etc., qui sont richissimes, qui gagnent des centaines de milliers d'euros toutes les heures qui passent. Et donc, eux, ce n'est pas en termes de survie, là. C'est un système qui est mis en place et qui fait que ces entreprises-là ont vocation à s'enrichir sans fin. Puisqu'on pourrait penser que, passé un certain niveau de richesse, ils redistribueraient le reste. S'ils en avaient assez dans le compte en banque pour se dire « je peux vivre jusqu'à la retraite tranquille, et mes enfants, mes petits-enfants aussi, et le reste, après, je le distribue aux salariés », ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que plus ils en ont, plus ils en prennent. C'est ce que montre l'histoire économique au fil du temps. Et les salariés sont obligés, dans ce rapport-là, de se battre, sans fin aussi, tant que ce système perdure, pour pouvoir récupérer les richesses qu'ils créent. La France est la cinquième puissance économique mondiale. Elle crée suffisamment de richesses pour que tout le monde puisse vivre en ayant un travail, déjà. Il ne faut pas oublier qu'un salarié sur cinq en Haute-Garonne est privé d'emploi. Est inscrit à Pôle emploi, est en contrat précaire, etc. Les jeunes et les vieux sont particulièrement touchés. Donc déjà accéder au travail, et puis ensuite, lorsqu'on a un travail, pouvoir vivre de ce travail, pouvoir choisir de travailler moins, par exemple, pour s'occuper de d'autres choses, choisir d'avoir un travail qui ne dégrade pas sa santé, mais qui ne dégrade pas non plus l'environnement. J'ai pas envie de me lever le matin pour polluer la planète, par exemple. Par contre, ça m'intéresse d'aller travailler pour aider les gens autour de moi. Voilà.
Son plaisir.
En tout cas, savoir qu'il y a une utilité sociale à ce qu'on fait, ça donne du sens à son travail.
Oui, c'est important.
Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il travaille, en général, il est malheureux. Alors que celui qui a l'idée de rendre service à la société par le travail qu'il fait, soit parce qu'il produit des voitures et que ces voitures, elles ne polluent pas, par exemple, ça sert à se déplacer, à partir en vacances, c'est autre chose de plus intéressant que se dire « je vais produire des gros moteurs qui polluent ». Voilà, et on essaie d'avoir... Mais ces choix-là, aujourd'hui, ce ne sont pas des choix qui sont faits par les salariés, ce sont des choix qui sont imposés par un aménagement capitaliste, d'où l'intérêt d'avoir des syndicats pour pouvoir peser, parce que quand on est nombreux, on représente quelque chose.
On aimerait savoir à quoi servent les prud'hommes.
Les prud'hommes, le conseil des prud'hommes, il y en a un dans chaque département et dans plusieurs villes. En Haute-Garonne, il y en a un à Toulouse et un à Saint-Gaudens. C'est un conseil qui est composé de représentants des salariés, pas des organisations syndicales, et de représentants employeurs via leurs organisations syndicales aussi, qui jugent toutes les affaires liées au contrat de travail.
Très bien. Sur ce, en parlant d'emploi, toujours en restant dans le même sujet, on aimerait savoir, peut-on être syndiqué en étant gendarme ou militaire ?
Alors, pendant longtemps, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de se syndiquer. Et aujourd'hui, les militaires ont toujours un souci pour se syndiquer. Ils ont leurs propres organisations d'amicales, notamment, qui leur permettent de faire un contre-pouvoir un peu par rapport à leur ministère, mais ce sont des amicales qui fonctionnent sur le mode du corporatisme, c'est-à-dire qu'ils ont des instances dans lesquelles leurs dirigeants et eux-mêmes essaient d'avancer ensemble, ce qui est rarement dans l'intérêt des travailleurs. Mais il est question régulièrement, ils font des appels auprès de l'Europe pour avoir l'autorisation de se syndiquer, justement. Ce n'est pas encore le cas.
Mmh. On voudrait savoir, peut-on être auto-entrepreneur et se syndiquer en même temps?
Alors, c'est une question qui a fait débat pendant un petit moment dans les organisations syndicales. La CGT a tranché ce débat en considérant que les auto-entrepreneurs, vous pensez aux Uber et compagnie, ouais, sont en réalité des salariés qui ne peuvent pas bénéficier de tous leurs droits. Puisque ce qui caractérise le salariat dans un contrat de travail, c'est le lien de subordination. Il y a le salaire, effectivement, mais vous avez déjà remarqué, peut-être, dans la société, on est des citoyens. Quand on marche dans la rue, et le dimanche, on nous dit, tu vas aller voter, tu as le pouvoir entre tes mains, après tu le mets dans l'urne, et tu verras bien ce qu'en font les élus. Mais tu es un citoyen. Dès que tu rentres dans l'entreprise, tu es soumis à ton employeur. Et tu abandonnes la gestion de ton temps, y compris, il peut t'expliquer comment il faut s'habiller. En échange du salaire qui est donné, on doit se plier à tous les desiderata quasiment de l'employeur.
Donc en échange d'un salaire, on prive un petit peu une partie de notre liberté au travail.
Complètement. Et l'auto-entrepreneur, lui, a un lien de subordination, mais il n'a pas en échange le salaire et les protections que lui amène ce droit de subordination. C'est-à-dire, un exemple, si tu travailles sur un chantier, ton employeur est tenu de te donner un casque et des chaussures de sécurité. Si tu ne les mets pas, tu peux te faire licencier. Mais il est tenu d'assurer ta sécurité.
Oui, ça encore.
En échange du lien de subordination et du salaire. Enfin, un auto-entrepreneur, lui, s'il est amené à intervenir quelque part, il a l'employeur ne lui rend aucun compte, enfin, ne lui doit rien, et il se place en prestataire d'une entreprise qui, en réalité, est son vrai employeur. Donc la CGT, on réclame à ce que les auto-entrepreneurs aient de vraies garanties, voire soient salariés avec les cotisations, etc.
Alors, jeudi dernier, il faut savoir qu'il y a eu quand même énormément de grèves à Toulouse. Pourquoi avez-vous fait grève et quelles seront vos revendications, en fait?
Alors, jeudi dernier, c'était une journée d'action à l'initiative principalement des fonctions publiques, qui appelaient, donc les trois fonctionnaires, hein, les territoriaux, les hospitaliers, les fonctionnaires d'État, qui sont des travailleurs sous statut, les cheminots appelés aussi, alors plutôt à manifester, mais certains ont fait grève aussi, et ensuite se sont joints plusieurs corps de métiers, plusieurs fédérations du privé, que ce soit de la chimie, du commerce, et puis des appels à manifester, aussi, qui n'est pas la même chose que la grève, hein, manifester, c'est marcher dans la rue ensemble, de la part de délégations, d'entreprises qui sont venues en solidarité parce qu'ils estiment qu'ils sont touchés aussi. Alors, les revendications des fonctionnaires, c'était concernant les salaires, l'emploi, les embauches, les conditions de travail, le statut qui est attaqué, c'est-à-dire ce qui fait la sécurité du travail d'un fonctionnaire, c'est l'équivalent des conventions collectives pour faire vite dans le privé. Et donc ils ont été rejoints par les salariés du privé qui sont très conscients que les attaques contre la fonction publique, c'est le pendant des attaques loi-travail. Les deux ont le même but, c'est de faire diminuer les droits des salariés en général, qu'ils soient du public ou du privé, en faisant baisser leur salaire et en diminuant ce que le gouvernement appelle rendre flexible et le MEDEF, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés prennent tous les risques et les assument eux-mêmes, et les entreprises et toutes les sécurités possibles.
Alors, en tant que responsable de la CGT, justement, avez-vous peut-être des plans futurs pour justement aider à faire avancer tout ça?
Alors effectivement, il y a grand besoin de faire avancer la situation des salariés dans ce pays. On peut avoir le sentiment qu'aujourd'hui on est attaqué de partout, et c'est vrai. On voit que c'est de plus en plus difficile et de rentrer dans le marché du travail, ce qu'ils appellent le marché du travail, qui est un terme pour y revenir, donc de trouver un travail, et puis ensuite de pouvoir progresser dans son travail, de pouvoir rester dans le même travail le temps qu'on veut, que ce soit nous qui le choisissions et pas les entreprises à notre place. C'est très difficile aujourd'hui, mais il faut voir que c'est plus facile qu'il y a 120 ans. Quand la CGT s'est créée, les enfants travaillaient, par exemple, à partir de 8 ans. C'est une mesure frappante, mais l'abandon du travail des enfants et l'obligation de scolarité, elle ne s'est pas faite toute seule, elle n'est pas tombée du ciel. Ce n'est pas tout d'un coup un président de la République éclairé qui a dit « on va changer les choses ». Non, c'est le fruit des luttes des salariés. On dit « nos enfants ont le droit d'aller à l'école ». Et de grandir sans travailler plutôt que d'être sur un chantier. Voilà. Il faut remettre dans le contexte. Il y a vraiment besoin aujourd'hui et plus que jamais de faire tourner la roue du progrès social dans le bon sens. Et pour ça, il y a besoin d'être nombreuses et nombreux syndiqués. Et c'est un objectif, à mon avis, pour les jeunes. De ne pas rester isolé dans le marché du travail. On est dans une société qui isole de plus en plus les individus. Souvent, on entend parler d'individualisme. Nous, on ne pense pas que ce soit la nature humaine. L'individualisme, il est créé par les conditions sociales. On est dans une société qui met en place un égoïsme, par exemple, c'est la société du chacun pour soi. Et le but des organisations syndicales, c'est justement de recréer des solidarités pour amener à une société plus juste, plus solidaire, dans laquelle on se serre les coudes, dans laquelle les jeunes et les vieux s'entraident et non pas se rivalisent entre eux. Et donc il y a plus que jamais besoin de rejoindre les organisations syndicales et de lutter, non pas pour son avenir, de lutter pour soi-même, pour son présent. Parce que les conditions qui sont faites au présent vont déterminer ce que sera la société de demain.
Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette interview. Je vous remercie énormément de répondre à toutes ces questions.
C'est normal, avec plaisir.
Et voilà, on vous remercie et on vous dit à très bientôt.
Place à l'interview de Frédéric de l'entreprise Soit. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Alors moi, c'est Frédéric et mon nom Massana, mais vous pouvez m'appeler Fred.
En quoi consiste votre travail ?
Alors aujourd'hui, mon travail consiste à sécuriser les différentes entreprises des attaques informatiques qu'il peut y avoir et de mettre en place un réseau et un Wi-Fi. Par exemple, dans votre école, pouvoir sécuriser tout le système informatique de votre école, mettre en place des solutions pour tout ce qui est connexion, que ce soit sur du avec du Wi-Fi, avec du filaire, et sécuriser l'ensemble de ces connexions-là pour éviter que les élèves, par exemple, fassent n'importe quoi sur Internet, mais également éviter des attaques, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cybersécurité. En gros, on est une société d'expertise dans la cybersécurité, le réseau et le Wi-Fi.
Et où travaillez-vous ?
Alors, on travaille sur Toulouse. On a les bureaux qui sont à côté de la Cépierre. La société s'appelle So IT, pour Sud-Ouest Information Technologie. On est principalement dans le Sud-Ouest, mais depuis quelques temps, on commence aussi à avoir un rayon un peu plus large au niveau national, voire international, puisqu'on a déjà fait des intégrations pour l'Arménie, le Bénin, le Laos, etc.
Quel a été votre parcours ?
Alors mon parcours, il est assez atypique, puisque moi, je ne viens pas du tout du monde de l'informatique. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure en off, moi j'ai un parcours qui est passé par le lycée professionnel. J'ai fait un BEP, CAP, MSMA, donc maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Ensuite, j'ai continué en bac pro, mais cette filiale ne me plaisait pas du tout, donc j'ai décidé d'aller travailler. Donc j'ai travaillé en boulangerie pendant presque 2 ans. Et puis j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le commerce au début des années 2000 pour vendre des solutions informatiques. Et petit à petit, je me suis intéressé aux technologies. Et j'ai eu la chance de travailler pour une société parisienne et puis par la suite de rencontrer deux experts techniques qui ont voulu monter leur structure, et je suis rentré dans l'actionnariat avec eux. qui sont Nicolas Papin et Frédéric Dubois, patrons de la société. Et depuis 8 ans, on œuvre sur la région et aujourd'hui, on est 10 personnes dans la structure et on a vraiment cette expertise-là en cybersécurité. Aujourd'hui, on s'est créé des attaques, par exemple, pour démontrer que rien n'est infaillible, quoi, par exemple.
Bonjour.
Bonjour.
Voulez-vous faire ce métier en étant plus jeune ?
Alors, pas du tout. Si à votre âge, on m'avait dit que je serais commercial avec une casquette dans ma main dans l'informatique, je ne m'y attendais pas du tout. Comme je vous dis, j'ai eu l'occasion de rentrer par une petite porte, comme ça, me proposant ce métier-là dans l'informatique. J'ai trouvé ça super intéressant. J'avais même mon premier ordinateur, je l'ai touché à l'âge de 18 ans. Voilà. Et j'ai été passionné par ce métier-là et je suis toujours passionné. Et quand on est passionné de quelque chose, on arrive à ses fins, et ça se ressent. Et voilà, c'est pour ça, tout le monde est capable dans la vie, avec de la volonté, d'arriver à faire quelque chose.
Sinon, que voulez-vous faire ?
Justement, j'étais complètement perdu. Moi, quand j'avais vu après la troisième, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Comme je n'étais pas très bon élève, j'avais pas trop le choix de partir sur une voie d'un CAP ou un BEP. J'avais vu MSMA, je trouvais ça hyper clinquant au niveau du nom. Mais je n'ai jamais voulu trop savoir ce que je voulais faire. J'étais un petit peu perdu. Et puis, quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé d'aller travailler pour gagner un petit peu d'argent. Et après, j'ai rencontré l'informatique et là, c'est assez passionnant, quoi. C'est un monde vaste, mais la cybersécurité, c'est un petit milieu qui est très intéressant.
D'où vous est venue votre envie de faire ce métier ?
En fait, quand j'ai essayé dans cette société qui m'avait recruté au départ, j'ai été pris de passion par le commerce, le contact avec les gens, savoir cerner un besoin, savoir poser les bonnes questions, être confronté aussi à de la clientèle qui peut être récalcitrante. C'est tout le temps une remise en question permanente et c'est un métier qui bouge tout le temps, on ne fait jamais la même chose, donc c'est hyper intéressant.
Comment avez-vous découvert ce métier ?
Justement, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vraiment par hasard, on m'a proposé cette place dans le commerce. J'ai testé et puis de l'avoir testé, j'ai approuvé et j'ai été pris d'une passion pour ce métier-là. Mais vraiment, en restant dans l'IT, je pourrais faire du commerce sur autre chose, mais l'informatique, donc l'IT est vraiment très intéressant parce que ça bouge tout le temps. Surtout au niveau sécurité, tout évolue quoi, et très vite.
Quel diplôme faut-il pour exercer ce métier ?
Alors, c'est la maladie, moi, que je trouve en France, parce que moi, vous voyez bien que je n'ai pas de diplôme dans le commerce. Normalement, il faudrait des diplômes pour la partie commerciale, un BTS ou une licence ou un master en commerce. Et sur la partie informatique, en général, c'est faire un cursus informatique. Mais on a par exemple un jeune chez nous qui a un CAP plaquiste, mais qui est passionné d'informatique, qu'on a recruté chez nous et qui maintenant est dans une école d'ingénieur parce qu'il faut qu'il ait ses diplômes. Mais il n'est pas plus con qu'un autre et même il est très très pertinent. C'est lui aujourd'hui qui s'est créé des attaques pour montrer aux entreprises que rien n'est infaillible. J'y passe un petit beau jour, c'est Kevin. Voilà.
Gagnez-vous bien votre vie ?
Alors actuellement, ce serait faux de vous dire que non. Je gagne très très bien ma vie. Contrairement, j'ai mangé du pain sec pendant très longtemps, puisque mes parents sont de milieu ouvrier, tous les deux. Donc ils ne pouvaient pas suivre ma scolarité. J'ai été ouvrier moi-même et j'ai fait mon petit trou au fur et à mesure. Ça fait 4-5 ans maintenant que je gagne relativement très très bien ma vie.
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?
Alors, ça va faire quasiment 20 ans maintenant. Donc, puisque je suis parti très jeune, j'ai quitté l'école à 17 ans, j'ai travaillé et j'ai attaqué ce métier à 20 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, j'ai commencé très très jeune et il a fallu du temps et il faut énormément persévérer. Mais avec de la persévérance, on arrive à ses fins.
Merci.
Avec grand plaisir.
Oh, bonjour.
Bonjour.
Que proposez-vous dans votre entreprise ?
Alors nous, ce qu'on propose dans notre entreprise, c'est des solutions pour sécuriser au mieux une société ou une école ou une infrastructure. Et aujourd'hui, on est assez atypique parce qu'on est une société, donc SOIT est assez atypique à ce niveau-là, puisque pour montrer, aujourd'hui, il y a du factuel. Parce qu'aujourd'hui, dans l'informatique, comme dans notre société actuelle, tout le monde veut être le plus beau, le plus fort, faire les gros bras avec des beaux papiers, ce qu'on appelle le marketing, où sur le papier, tout est beau. Notamment dans l'informatique, dans la sécurité, rien n'est infaillible. Et nous, on va montrer ça. En fait, on crée nous-mêmes des attaques pour montrer que, écoutez, monsieur, votre système d'information aujourd'hui, vous avez ça en place, on peut vous montrer comment on arrive à traverser votre système d'information et avoir accès à vos données. Et ça, c'est la mode actuellement, puisqu'il va y avoir une loi sur les, notamment la protection des données, où je vois sur tout de suite, il n'y a rien qui est au point pour nous. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, c'est de montrer à une entreprise que le risque zéro en termes de sécurité n'existe pas et de proposer ce qui est le moins pire pour que, ben, en fait, vous puissiez communiquer en toute sécurité. Voilà, en gros, et que ce soit par le réseau filaire, le Wi-Fi ou des solutions de sécurité comme des firewalls ou du endpoint, mais ça, c'est des mots que vous connaissez pas, mais voilà, c'est des systèmes de sécurité.
Et où intervenez-vous ?
Alors, on intervient majoritairement dans le sud-ouest, mais maintenant, là, on était à Paris la semaine dernière encore, hein, où on travaille avec certaines structures parisiennes, mais on intervient aussi sur des pays étrangers. Ça arrive qu'on puisse intervenir sur des pays étrangers, mais on essaie de s'orienter vraiment au niveau sud-ouest, quoi, voilà.
Quels sont vos horaires ?
Alors, au niveau des horaires, on n'a pas trop d'horaires, en fait, puisque... moi je suis actionnaire de la société, mais en général les horaires c'est 9h, 12h30, 14h, 18h. Mais aujourd'hui, par exemple dimanche j'ai travaillé 4h sur des dossiers. Hier j'ai travaillé une dizaine d'heures, donc aujourd'hui on n'a pas du tout d'horaire. Et surtout les techniques, eux, en fait leur mission c'est quand vous allez faire ce qui s'appelle une migration, par exemple sécurité, il faut que tout soit en place. Donc cette migration, même si elle est bien préparée, peut y avoir des aléas. En général on les fait les nuits, donc ça peut durer 4 heures comme 6 heures, comme 8 heures. Donc dans notre secteur d'activité, parler d'horaire, ça n'existe pas.
Avez-vous des salariés ou des associés ?
Oui, donc moi je suis actionnaire avec un statut de salarié. Et après, il y a deux associés majoritaires qui sont Nicolas Papin et Frédéric Dubois. Et après, il y a sept autres salariés dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est 10 personnes.
Et que font-ils ?
Alors, Frédéric et Nicolas, eux, sont vraiment des experts techniques. Nicolas plus orienté réseau, Wi-Fi. C'est d'ailleurs un des fondateurs du laboratoire Cisco, qui est une grosse marque réseau chez Supinfo, qui a écrit des cours, qui était professeur et qui maintenant mène des opérations sur des gros comptes pour mettre en place ce qui s'appelle un data center, en gros, pour que vous puissiez discuter en toute sérénité dans une entreprise. Et Frédéric Dubois était le directeur technique de Telindus, qui maintenant s'appelle SFR, que vous connaissez, qui a monté des offres techniques chez Telindus et qui lui est beaucoup plus sur l'expertise de cybersécurité, qui crée des attaques notamment avec nos équipes techniques et qui met en place des solutions de sécurité pour protéger un maximum les données d'une entreprise.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Alors, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les technologies évoluent de plus en plus vite et que c'est un jeu du chat de la souris entre les hackers et nous, et que c'est tout le temps la course en permanence à l'innovation. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de pouvoir tester des solutions toujours innovantes et ce côté, les journées ne sont jamais les mêmes en fait. Les journées sont toujours différentes et les problématiques que peuvent rencontrer nos clients par rapport à une attaque ou une problématique réseau, et c'est ça qui est hyper intéressant.
Quelles sont les contraintes liées à votre activité ?
Les contraintes liées à notre activité, c'est justement le fait de ne pas avoir trop d'horaires, le taux de fatigue qui peut être parfois assez élevé. L'essentiel, en fait, dans la vie, il faut se lever le matin avec pas de boule au ventre et avoir envie d'aller bosser. Et moi, quand je me lève le matin, j'ai envie d'aller bosser. Donc, les contraintes peuvent être familiales parce que j'ai deux enfants et que ce travail est très prenant. Mais on essaie d'aménager un petit peu certaines choses pour rester aussi en famille et se couper un petit peu du monde du travail. Mais voilà, les contraintes sont là, familiales. Après, on est tellement passionné que les horaires, c'est dérisoire.
Avez-vous des astreintes ?
Alors, des astreintes, moins sur la partie commerce, mais sur la partie technique. Et on a eu fait des astreintes pour certaines sociétés par rapport à des migrations. Donc, ça arrive qu'on ait des astreintes. Mais il y a des structures informatiques. Le jour où elle sera plus structurée, on met des choses en place sur du 24/24/7/7. Aujourd'hui, on a un support qui est en heure ouvrée, jour ouvré. C'est-à-dire de 9h à midi et de 14h à 18h. Mais oui, ça peut arriver qu'on ait des astreintes.
Et merci.
Avec plaisir.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que votre secteur embauche ?
Alors notre secteur embauche, puisque là on a recruté encore une personne de plus. Donc on a démarré à 3 en 2010, aujourd'hui nous sommes 10, 8 ans après. Sachant qu'en France, si un jour vous êtes entrepreneur, vous verrez qu'on est le pays avec le plus de charges. Donc une personne que vous allez payer par exemple 2 000 euros va vous coûter 4 000 euros à l'entreprise. Donc on fait notre petit trou au fur et à mesure. Et ouais, on est un secteur d'activité, l'informatique et surtout la partie cybersécurité embauchent beaucoup. Et sur Toulouse, il y a pas mal de structures qui embauchent aujourd'hui.
Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui veulent faire le même métier que vous ?
Moi, ce que je leur conseille, c'est de persévérer, de s'intéresser beaucoup aux nouvelles technologies. Moi, j'ai eu la chance de bypasser la partie scolaire. C'est de plus en plus rude aujourd'hui parce qu'on vous demande de travailler à l'école et d'avoir des diplômes. Comme je le disais, c'est un petit peu la maladie française. Alors que vous n'êtes pas forcément plus con qu'un autre en parlant poliment. Mais c'est de travailler déjà pour soi, si vous êtes passionné, de regarder un petit peu l'informatique et d'essayer bien sûr de bosser à l'école et surtout de voir réellement ce qui pourrait vous plaire. Et à vos âges, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi-même, j'étais perdu à 16-17 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais si vous êtes des passionnés informatiques, avec un petit peu de persévérance, vous y arriverez.
Comment voyez-vous votre métier dans 10 ans ?
Mon métier dans 10 ans ? Je le vois très porteur parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, vous avez dû entendre parler d'objets connectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez piloté avec votre téléphone votre machine à laver, votre frigo qui pourra vous remonter des informations, voir si la température elle est élevée ou pas, gérer vos volets. Mais aujourd'hui, tout ça n'est pas très sécurisé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un bon hacker serait capable d'ouvrir les volets de votre maison, etc. Et tout ça, il faut le sécuriser. Donc, notre métier, c'est de sécuriser aussi tout ça, de sécuriser les données. Et on se rend compte au fil du temps qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent des attaques justement pour, soit pour crypter des données, soit pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a des hackers qui, aujourd'hui, gagnent de l'argent en attaquant des entreprises et en allant, en gros, ce qui s'appelle cryptoloquer une entreprise, c'est aller envoyer un fichier PDF, par exemple, et en le déguisant sous une fausse facture. Par exemple, la facture de votre cantine qui sera envoyée à vos parents. Et en fait, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un logiciel malveillant qui va crypter toutes les données, les photos, etc. Comme quand c'est permis, ils vont surtout le faire dans une entreprise. Donc, ils vont, par exemple, chez Airbus, crypter toutes les données des plans d'un avion. Et en fait, pour restituer ces plans-là, ils vont demander une rançon. Donc, aujourd'hui, les hackers gagnent de l'argent comme ça. Et nous, on est de l'autre côté, on essaie de faire en sorte que ces logiciels malveillants n'arrivent pas dans votre boîte mail. Donc, du travail dans la cybersécurité, il y en aura tout le temps.
Merci beaucoup.
Merci à vous et puis bon courage pour la suite et lâchez rien surtout. Comme je disais, vous n'êtes pas plus con que les autres et vous arriverez à avancer dans la vie, il n'y a aucun souci.
Merci, monsieur.
Merci.
Merci à toutes et à tous, c'était Radio Turbo.
Salut à tous, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Au revoir.
Cette émission a été réalisée par Sylvain Bardi et Alexandre Ajos pour l'association Média Commun Occitanie. Elle a été réalisée dans le cadre d'un atelier mené en partenariat avec la Ligue de l'enseignement Haute-Garonne au lycée Eugène Montel à Colomiers. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Tous les morceaux qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placés sous licence libre. Nous tenons ici à remercier Vanessa de la Ligue de l'Enseignement, toute l'équipe de Radio Monde País, Cédric de la CGT Haute-Garonne et Frédéric de l'entreprise SOIT, ainsi que les élèves Tristan, Pétuel, Dorian, Vincent, Franck et Arsène, sans qui cette émission n'aurait pas été possible.
Radio Turbo,
métier à toute vitesse.